Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés, mes frères, il y a une semaine, tout cela passe bien vite, il n'en reste plus que trois et à peine. Nous sommes entrés donc dans ce temps et il nous faut méditer sur un avènement. C'est le sens même du mot « avant ». Encore faut-il savoir de quel avènement il s'agit, sur quel avènement notre méditation doit porter pour qu'elle soit fructueuse. Il y a bien sûr ce premier avènement, ça c'est très facile, ne vous endormez donc pas trop vite, je vais quand même en parler, parce que c'est l'avènement de Jésus dans la crèche, il s'agit de cette venue du Fils de Dieu dans la chair, celui qui a été annoncé par l'ange Gabriel à la Vierge Mère. Bien sûr, là, cela ne fait aucun secret. Mais il y a un deuxième avènement qui est un peu plus inattendu, et pourtant la liturgie de l'Avent nous en a parlé la semaine dernière. Il s'agit de cet avènement ultime de Jésus à la fin des temps. La parousie, le retour du Christ dans la gloire, l'Église nous le met devant les yeux dès le début de l'Avent. C'est un peu étonnant. On aurait pu croire que l'Église aurait eu, selon toute logique, il aurait été plus à propos de nous parler que de la crèche. De mettre, par exemple, dans le premier dimanche de l'Avent, la semaine dernière, le récit de l'Annonciation. Eh bien non, l'Église nous parle tout de suite de ce qui va se passer à la fin des temps. Comme pour nous montrer que le premier avènement de Jésus dans la chair, l'incarnation, n'a sa plénitude, n'a tout son sens ultime que dans ce retour du Christ dans la gloire. Ça paraît assez évident, mais ça ne l'est pas tout le temps, finalement. Dans notre méditation, nous nous arrêtons très souvent à la crèche et nous nous y cantonnons, hein, parce que l'ambiance est douce et maternelle et sympathique, et nous ne voyons pas que cette crèche n'a d'intérêt que dans la mesure où elle est la première étape en vue de ce déploiement ultime, ce jour où le Christ sera tout en tous, comme nous dit saint Paul. Donc la liturgie de l'Avent nous invite en fait à méditer sur, pas seulement sur la crèche, mais sur ce temps intermédiaire qui sépare la première venue de Jésus dans la chair, qui a eu lieu une fois pour toutes, et cette venue ultime de Jésus à un moment que seul le Père pourra déterminer. Voyez donc que l'Avent, c'est ce temps autour duquel, à l'occasion duquel, nous réfléchissons sur le temps intermédiaire. Temps intermédiaire entre ce premier moment, l'incarnation de Jésus, sur lequel je vous ferai remarquer que nous n'avons pas prise, parce que le Seigneur ne nous a pas consultés pour savoir à quel moment il allait s'incarner, pour savoir où il s'incarnerait. Il s'est pas incarné en France, voyez-vous. Il s'est incarné dans une petite terre du Moyen-Orient, du Proche-Orient un peu étrange, et pas plus qu'il ne nous consultera quant au jour auquel il lui semblera bon de revenir sur terre. Et nous aurons beau l'appeler de toutes nos forces, ou nous aurons beau le supplier de retarder ce moment, c'est quand le Père l'aura décidé que son Fils reviendra. En revanche, là où nous avons prise, si ce n'est pas sur le début et sur la fin de ce temps intermédiaire, c'est sur chaque instant de ce temps intermédiaire. En chacun des instants de ce temps intermédiaire, particulièrement évidemment pendant notre courte vie, nous avons à susciter une troisième venue de Jésus. Une sorte de venue intermédiaire, c'est-à-dire la venue de Jésus dans chacune de nos âmes. Et ça, mes frères, nous devons y penser particulièrement pendant l'Avent. Parce que cette venue de Jésus dans la chair, dans notre âme, je veux dire, ne va pas de soi. Comme nous en faisons l'expérience, évidemment, chaque jour, nous avons, par le baptême, été gratifiés d'une semence. Nous avons été gratifiés de cette graine qui n'est autre, en fait, que Jésus-Christ. Encore faut-il que cette graine produise du fruit. Du côté de la graine, soyez-en certains, il n'y a absolument aucun défaut. Donc la graine est faite pour faire de nous des saints et des grands saints. Le problème, c'est évidemment la résistance que nous mettons à cette fructification de la graine en nous. Autrement dit, la naissance de Jésus dans notre âme pose difficulté. La naissance de Jésus dans notre âme, sur laquelle nous avons une responsabilité, vous voyez comme le bon Dieu est grand, et comme il est miséricordieux, et comme il nous prend au sérieux, nous avons une responsabilité. Cette venue se fait au gré d'un combat. L'Avent est un temps de combat. L'Avent n'est pas seulement ce temps au cours duquel nous pensons à la nuit de Noël, où nous préparons les cadeaux, où nous montons la crèche, et nous attendons de pouvoir mettre ce petit santon, qu'est l'enfant Jésus, dans la joie de Noël, toute chose belle et bonne. L'Avent, c'est un temps de combat. Nous sommes d'ailleurs vêtus, sauf aujourd'hui parce que nous célébrons l'Immaculée Conception, nous sommes vêtus en violet. C'est un temps de la pénitence, c'est le petit carême, selon l'expression traditionnelle de l'Église. Or, dans le combat, il faut avoir une tête. Il faut avoir un général, il faut avoir un chef. Quel est ce général qui va pouvoir nous indiquer quelle voie suivre? Eh bien, paradoxalement, c'est une femme. Il s'agit de la Vierge Marie. La Vierge Marie est notre modèle. Elle est, comme dit l'Écriture, du moins c'est une phrase de l'Ancien Testament qu'on applique à la Vierge Marie, elle est plus puissante, elle est plus redoutable qu'une armée rangée en ordre de bataille. La Vierge Marie est la combattante par excellence. Par excellence. Il est très surprenant que ce petit bout de femme, de 15, 16 ans, 17 ans peut-être, au moment où elle a appris qu'elle allait être la mère de Dieu, nous serve de général en chef. La Vierge Marie, me direz-vous, si elle nous aide à combattre, en aucun cas n'a elle-même connu le combat. C'est bien sûr. Elle a été gratifiée d'un effacement initial, d'une reprogrammation, on dirait aujourd'hui, de tout son être, puisque dès sa conception dans le sein de sa mère, Sainte Anne, elle a, nous savons, nous célébrons aujourd'hui, et nous allons faire un bon repas en cet honneur-là, nous allons célébrer quoi ? Nous célébrons l'Immaculée Conception. Il va de soi que lorsqu'on a un tel privilège, on n'a aucun combat à mener. Tout coule de source. Voyez-vous, elle était saturée de grâce. Et saint Maximilien Kolb, que je relisais cette semaine, dans un petit opuscule, écrit des choses tout à fait audacieuses. Il nous explique que la Vierge Marie n'est pas seulement, comme l'Église aime à le dire depuis des siècles, l'épouse du Saint-Esprit. Vous savez qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on la qualifie, l'épouse du Saint-Esprit. Mais Maximilien Kolb va encore plus loin en disant qu'il trouve la formule bien fade, bien plate, épouse du Saint-Esprit. Il va jusqu'à dire qu'en un certain sens, qu'il précise tout de même, qu'en un certain sens, elle est comme une incarnation de l'Esprit-Saint. Le Christ est comme l'incarnation, alors là pas comme, est l'incarnation du Fils éternel. La Vierge Marie est comme l'incarnation du Saint-Esprit. Vous voyez donc qu'effectivement Marie a fait l'objet d'un insigne privilège. Nous en sommes d'accord. Néanmoins, ce privilège-là n'a absolument pas empêché qu'il faille un combat. Et quel combat ? Le combat que Marie a connu contre les tentations, j'aime autant vous dire qu'il est d'une autre teneur que notre pauvre petit combat contre nos petites tentations charnelles ou nos petites désespérances du moment. Le combat de Marie est tout simplement vertigineux. Et cela, en dépit de son Immaculée Conception, ou même, j'ose dire, à cause de son Immaculée Conception. Lorsqu'on est, comme le dit Maximilien Kolb, une sorte de Saint-Esprit incarné, il est bien évident que Satan se défoule sur vous, encore plus que lorsque vous êtes un simple être humain revêtu du Christ par le baptême, vraiment. Mais vous avez moins d'intérêt, bien sûr, que cette digne mère de Dieu dans la tentation. En quoi Marie a-t-elle dû combattre et comment est-elle notre exemple ? La Vierge Marie a fait porter tout le combat de la Vierge Marie concernait sa vocation. La Vierge Marie, évidemment, n'a pas connu des petites tentations futiles dont je vous parlais à l'instant et que nous connaissons chaque jour et auxquelles nous succombons régulièrement. La Vierge Marie, elle, a connu une tentation récurrente dans sa vie quant à sa vocation, c'est-à-dire quant à savoir ce que Dieu attendait d'elle. Et cela commence tôt, puisque ça commence, du moins dans ce que nous en savons, avec le récit de l'Annonciation. La Vierge Marie avait résolu dans son cœur, c'est du moins ce que tient la tradition en majorité, elle avait résolu dans son cœur d'offrir sa virginité à Dieu. En gros, elle s'était liée par une sorte de vœu explicite ou implicite qui était en décalage total avec la culture de son temps. On ne restait pas vierge, on devait avoir des enfants lorsqu'on était une femme d'Israël bien née. Mais voilà que Marie, dans son cœur, avait décidé de se consacrer à Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit lui avait soufflé, et voilà ce qu'elle semblait comprendre comme itinéraire, c'est-à-dire virginité consacrée, pas d'époux, pas d'enfant. Voilà que Dieu la pousse vers Saint-Joseph, sans doute parce qu'à l'époque, une femme seule qui n'a pas d'époux, c'est une femme qui appartient à tout le monde. Sans doute parce qu'il était très mal vu de ne pas avoir d'époux, voilà que Marie prend comme époux, sans rien entreprendre avec lui, contre son vœu de virginité, Saint-Joseph, le grand Saint-Joseph, l'époux très chaste. Mais Dieu va encore plus loin et montre à Marie qu'elle ne doit pas en rester là, puisque par la voix de l'ange, il lui annonce qu'elle sera mère. Elle qui s'était engagée à la virginité, l'ange vient lui annoncer qu'elle serait mère. Comprenez la contradiction dans l'esprit de la Vierge Marie. qui affleure dans cette réponse qu'elle fait à l'ange. Mais enfin, comment cela viendra-t-il? Vous me dites que je dois être la mère d'un fils, mais, et le fils de Dieu, mais comment cela viendra-t-il? Je n'ai pas d'époux, je ne connais pas d'homme, je ne ferai jamais rien contre la virginité, et donc je ne pourrai pas enfanter. L'ange la rassure, ne sois sans crainte, l'Esprit Saint t'augombrera, il te prendra sous son ombre, et tu enfanteras, etc. Vous voyez que la Vierge Marie a connu un véritable combat lorsqu'elle s'est retrouvée devant l'ange. Et lorsque nous lisons ce récit battu et rebattu que nous connaissons par cœur, nous ne saisissons pas, peut-être parce qu'il n'en rend pas compte, il amortit le choc de l'émotion que la Vierge Marie a dû connaître, le véritable combat que Marie a connu quant à sa vocation. Lorsque Jésus a 12 ans, voilà qu'elle est attaquée, notre bonne Vierge Marie, quant à sa maternité divine. Jésus la replace, la remet à sa place. Mais ne saviez-vous pas que je devais être à la maison de mon père, aux affaires de mon père? Oui, je suis votre fils, oui, je suis le fils putatif de Joseph, souvenez-vous que je suis d'abord le fils éternel de Dieu. Voyez donc que Marie, là encore, a dû commettre un combat. Il lui fallait se désapproprier son petit Jésus, pour lequel son cœur venait de battre pendant 3 jours, parce qu'elle ne le retrouvait pas dans la foule, et qu'elle oubliait là qu'il était le fils de Dieu. Comment perdre le fils de Dieu, qui est créateur de tout lieu et de toute chose? À Cana, la Vierge Marie a encore à faire face à un combat. Quant à son rôle, quant à sa vocation, non plus de vierge, non plus de mère, mais là, de médiatrice. Elle ne sait plus très bien où œuvrer, comment œuvrer à l'égard de son fils. Elle sait qu'elle doit être médiatrice, elle donne un ordre, et voilà, plutôt, elle demande à son fils de faire un miracle, et voilà que son fils semble la rabrouer. Imaginez le combat dans l'âme de la toute pure. La Vierge Marie, donc, je le maintiens, est combattante. Son fils, du reste, est lui-même un combattant. Il a dû faire face, notamment lors des tentations du désert, à Satan. Et a connu ces 3 tentations qui sont la quintessence des 3 orgueils. L'orgueil de la chair, l'orgueil des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a connu ces 3 tentations sur un mode, là encore, qui est suréminent par rapport à nous. A fortiori donc de sa mère, qui, toute pure qu'elle était, immaculée qu'elle était, n'était qu'une créature. Voyez qu'en réalité, Marie ne s'est pas du tout reposée sur son privilège d'immaculée conception, mais il a fallu, parce que Dieu en avait décidé ainsi, que cette immaculée conception soit comme découverte par Marie au fil de sa vie. Je vous ferai remarquer, je crois que ce n'est pas qu'un détail, que la Vierge Marie l'utilise, ne s'attribue à elle-même le nom d'Immaculée Conception qu'au XIXe siècle, à la grotte de Massabielle. Dans l'Écriture, le seul nom que Marie s'attribue, c'est la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Elle n'avait sans doute pas conscience qu'elle était l'Immaculée Conception. Il a fallu qu'elle vive de cette Immaculée Conception à travers les épreuves du combat spirituel pour pouvoir, après sa mort, comprendre dans la gloire quelle était exactement sa place et quelle était sa qualité foncière Immaculée Conception. J'en viens, et c'est la dernière partie de mon homélie, c'est promis, à notre propre cas. Analogiquement, nous n'avons pas nous reçu l'Immaculée Conception. Nous avons reçu tout de même un nom très éminent, celui de chrétien. Chrétien, connaît ta dignité. Disait-on dans l'Église, c'est ce que dit Saint Léon notamment, chrétien connaît ta dignité. Chrétien, ce nom de chrétien, il faut le méditer et il faut le défendre jalousement. Nous avons donc, je vous l'ai dit, reçu en héritage le Christ en nous. Nous avons ce privilège initial, mais de la même manière que Marie avait ce privilège initial d'Immaculée Conception et qu'elle a dû combattre, qu'elle a dû le faire passer, si j'ose dire, de la puissance à l'acte, nous avons, nous, à faire passer notre nom de chrétien de la puissance à l'acte. On ne peut se reposer sur ses lauriers d'avoir reçu la sainteté en héritage au baptême. Il faut que cette sainteté soit actuée, toujours plus accrue, réalisée dans un combat. Et au fur et à mesure que ce combat est mené, au fur et à mesure que nous remportons quelques petites batailles, alors nous comprenons de plus en plus profondément ce que veut dire ce nom de chrétien. De la même manière que Marie a compris de plus en plus profondément ce que voulait dire son propre vocable et ce privilège dont elle était héritière, Immaculée Conception. voyez que l'avant doit nous amener vraiment à une considération très profonde de ce temps qui sépare le premier instant de la rédemption, l'incarnation, la première venue de Jésus, la dernière venue de Jésus à la parousie. En chaque instant, s'il plaît à Dieu, nous prêterons notre coopération. Grâce à cette graine qui est en nous, nous laisserons le Seigneur venir de plus en plus profondément. Et nous pourrons le faire parce que nous nous rangerons à l'école de l'Immaculée. Nous n'avons pas d'autre moyen, nous ne pouvons pas nous prétendre chrétiens et nous ne pouvons envisager aucune victoire dans ce combat qui consiste à faire descendre Jésus en nous. Nous ne pouvons pas envisager cette victoire sans nous mettre sous la bannière de la Vierge Immaculée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.